Seigneur, nous voici devant ta table, la table où tu distribues le pain de la vie, qui est non seulement ce pain que nous avons mangé, mais aussi ta parole. Seigneur, nous avons soif de ta parole, nous avons soif de t'entendre. Les hommes ont beaucoup de choses à dire, mais peu de choses intéressantes. Seigneur, toi, ta parole dirige, ta parole guide, ta parole oriente, ta parole est la source de notre vie, de notre salut. Nous te remercions parce que tu nous permets de partager ta parole. Puisses-tu, Seigneur, t'adresser à nous en ce jour, que ta parole vienne jusqu'à nous. Puisses-tu disposer nos cœurs à l'écoute de ce que tu nous dis et donne-nous, Seigneur, la force, le courage pour mettre en pratique tout ce que tu nous enseigneras. Béni sois-tu notre Dieu, toi qui nous sanctifies par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Je voudrais saluer chacun d'entre vous dans le nom du Seigneur Jésus. Je suis content de voir chacun d'entre vous, mais quelqu'un en particulier, une grande fille, qui était assis juste devant moi et qui a été sage pendant tout le culte. Voilà, mais elle et moi, il y a quelque chose qui passe entre elle et moi parce qu'on est nés le même jour, donc vous ne pouvez pas comprendre. Voilà, nous allons ensemble partager la parole de Dieu et ce matin nous allons lire trois textes et nous allons essayer d'être attentifs aux lectures pour être capables de saisir ce qui est dit. Le premier texte dans 2 Samuel, chapitre 6, versets 13 à 23. Oui, c'est enregistré. Ah, bon. Ok. Ah, bon. Ah, finalement, ils ont trouvé la bonne piste. Bon, moi, je vous avoue que je n'aime pas ça. Ça me stresse parce que je me dis... Si les gens écoutent, après, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je dois faire attention à ce que je dis, ça me stresse. Bon, c'est pas grave. Non, mais c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. 2 Samuel, chapitre 6. À partir du verset 13, voici ce qui est écrit. Quand ceux qui portaient le coffre de l'Éternel eurent avancé de 6 pas, ils s'arrêtèrent et l'on offrit en sacrifice un taureau et un veau gras. David dansait de toutes ses forces devant l'Éternel, vêtu seulement d'un vêtement de lin semblable à celui des prêtres. Ainsi David et tout le peuple d'Israël transportèrent le coffre de l'Éternel en poussant des cris de joie et en faisant résonner les cors. Lorsque le coffre de l'Éternel arriva dans la cité de David, Michal, la fille de Saül, regardait par la fenêtre. Elle vit le roi David sauter et danser devant l'Éternel. Alors elle conçut du mépris pour lui dans son cœur. On amena le coffre de l'Éternel et on le déposa au milieu de la tente que David avait fait dresser pour lui. David offrit des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Quand David eut achevé d'offrir ses sacrifices, il bénit le peuple au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Puis, il fit distribuer des vivres à tout le peuple, c'est-à-dire à toute la foule des Israélites, hommes et femmes. Chacun reçut une miche de pain, une portion de viande rôtie et une masse de raisins secs. Après cela, chacun retourna chez soi. David rentra chez lui pour bénir sa maisonnée. Alors Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre et s'exclama. « Ah, vraiment, le roi d'Israël s'est couvert d'honneur aujourd'hui. Il s'est exhibé à demi-nu aux servantes de ses serviteurs, comme aurait pu le faire un homme de rien. » David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel que j'ai manifesté ma joie, lui qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa famille, pour m'établir comme chef d'Israël, son peuple. Je m'abaisserai volontiers encore davantage pour m'humilier, néanmoins, je serai honoré par les servantes dont tu as parlé. À la suite de cela, Michal n'eut jamais d'enfant jusqu'à sa mort. Amen. Deuxième texte, Marc, chapitre 8, versets 31 à 33. Voici ce qui est écrit. Et il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il devait être mis à mort et ressuscité 3 jours après. Il leur dit tout cela très clairement. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et reprit Pierre sévèrement, « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Amen. Dernier texte, dans 1 Corinthiens, chapitre 2. Versets 6 à 16, 1 Corinthiens, premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, versets 6 à 16. Voici ce qui est écrit. Cependant, nous aussi, nous enseignons une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes. Il ne s'agit pas, bien entendu, de ce qu'on appelle sagesse dans ce monde, ni de la sagesse des grands de ce monde, qui sont destinés à disparaître. Non, nous exposons la sagesse de Dieu, secrète jusqu'à présent, et qui demeure cachée au monde. Dieu l'avait préparée avant le commencement du monde en vue de notre gloire. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. Mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu, de ce que l'oreille n'a pas entendu, de ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Or, Dieu nous l'a révélé par son esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous, nous avons reçu non l'Esprit du monde, mais l'Esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par sa grâce. Et nous en parlons non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'Esprit. Mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie et il est incapable de comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Celui qui a cet Esprit peut lui juger de tout sans que personne ne puisse le juger. Car il est écrit, « Qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire ? Mais nous, nous avons la pensée du Christ, jusque-là, la parole de Dieu. » Amen. Nous venons de faire 3 longues lectures, mais ça vaut la peine que nous puissions les faire. C'est parfois important de faire des longues lectures, ça permet de comprendre le contexte, de comprendre le début de l'histoire, la fin de l'histoire, à qui on s'adresse, pourquoi on s'adresse, et quel est le cœur du message qu'on veut faire passer. Dans ce texte aux Corinthiens, c'est l'apôtre Paul qui parle. Alors l'apôtre Paul, c'est le serviteur qui a autorité dans les assemblées. Il n'est pas présent physiquement, mais c'est lui qui a l'autorité spirituelle. Et donc il donne des instructions et il envoie des lettres qui font autorité là où il les envoie. Alors on connaît tous le cas de l'église de Corinthe, une église remplie de plein de choses, mais malgré tout qui n'arrivait pas à vivre la vie de Dieu. C'était des chrétiens qui avaient beaucoup de dons spirituels, des chrétiens qui avaient beaucoup de zèle, des chrétiens qui avaient eu des bons serviteurs pour les enseigner. C'était des bons chrétiens, mais malgré tout, il y a beaucoup de reproches à leur faire parce qu'il semble qu'ils ne soient pas complètement dans la mentalité du royaume. Les Corinthiens, c'est un petit peu l'église à côté de la plaque, si on pouvait dire comme ça. Un petit peu le contraire des Philippiens dont Gino nous parlait la semaine passée. Les Philippiens, c'est l'église parfaite, hein, l'église à qui on n'a rien à reprocher. Les Corinthiens, par contre, il y a beaucoup de reproches à leur faire. Alors, sans les juger, l'apôtre Paul s'adresse à eux et il essaye de leur montrer que leur manière d'aborder les choses n'est pas bonne. Leur manière des choses n'est pas bonne parce que ils sont une église dans laquelle il y a beaucoup de divisions, dans laquelle il y a beaucoup de disputes, dans laquelle il y a beaucoup d'immoralité, dans laquelle il y a beaucoup de choses qu'on ne devrait pas trouver dans une église de Jésus-Christ. Et donc l'apôtre Paul vient leur donner un enseignement, et c'est un enseignement absolument crucial pour nous. Et je vais le résumer en une phrase. Seul un homme spirituel peut comprendre les choses de Dieu. On ne peut pas comprendre les choses de Dieu avec une intelligence mondaine. On ne peut pas appréhender la grâce de Dieu avec des pensées mondaines, humaines. Et c'est ça que ces gens-là n'avaient peut-être pas compris. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'avant, il va leur expliquer un petit peu que finalement, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, c'est une œuvre que le monde ne comprend pas. C'est une folie. Hein, on vous dit, vous vous rassemblez tous les dimanches autour d'une croix, parce que un monsieur est mort dessus, il a versé du sang, et tous les dimanches, vous buvez son sang. Bon, c'est quelque chose qu'un homme de la rue ne peut pas comprendre. C'est hors de sa compréhension, c'est hors de son intelligence. Et les Corinthiens étaient des réels chrétiens, c'était des enfants de Dieu, mais c'était des hommes et des femmes qui étaient encore dans ce qu'on appelle dans la Bible, dans la mentalité de l'homme livré à lui-même. C'est-à-dire l'homme sans Dieu, l'homme qu'on trouve dans la rue, le quidam, le monsieur X, le monsieur Y, le monsieur qui réfléchit avec ses pensées, le monsieur qui a sa petite réflexion sur les choses, j'en avais parlé la dernière fois, c'est son opinion. C'était des gens qui étaient à l'intérieur du royaume de Dieu, à l'intérieur de la pensée du Christ, mais qui voulaient appréhender la pensée du Christ avec des pensées ou une logique humaine. C'était des gens qui pensaient qu'ils pouvaient comprendre ce que Dieu leur dit ou agir selon ce que Dieu dit avec voilà, l'intelligence qu'on a appris à l'école, l'intelligence avec laquelle on coupe du bois, l'intelligence avec laquelle... Voilà. C'était l'intelligence commune. Alors, l'apôtre leur dit... Celui qui a l'Esprit de Dieu, parce que cet Esprit de Dieu que nous avons, c'est l'Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. En d'autres termes, c'est l'Esprit qui nous révèle qui est Dieu. C'est l'Esprit qui nous permet d'entrer dans la plénitude de la révélation de qui est notre Père. C'est cet Esprit qui nous est donné. Et s'il nous est donné, c'est pour que nous puissions être effectivement des chrétiens qui vivent dans l'alignement à la pensée du Christ. Parce qu'étant donné que l'Esprit connaît tout ce qui est de Dieu, il nous révèle tout ce qui est de Dieu pour que nous puissions vivre dans cette communion. C'est ça la communion. La communion, c'est le fait que ce qu'il y a en Dieu, c'est ce qu'il y a en nous. Il y a comme une indivision entre les pensées que Dieu nous partage et alors nous sommes dans cette relation où nous comprenons ce que Dieu veut de nous et nous faisons en fonction de ce que Dieu veut de nous. Alors jusque-là, vous vous dites, ouais d'accord, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Alors ce texte-là, on peut bien le comprendre quand on lit le texte de 2 Samuel que nous avons lu. Dans le texte de 2 Samuel, c'est très très simple, si vous avez lu attentivement, on a le roi David qui ramène l'arche de l'Éternel à sa maison. Vous savez que l'arche de l'Éternel, c'est quand même... là où Dieu met sa gloire. Donc, on a intérêt à bien prendre soin de cette arche-là. Et alors, il est dans cette transhumance, il est en train de ramener l'arche au bon endroit. Et il est en train de danser. Il est en train de danser et le texte nous dit qu'il a retiré ses habits royaux pour danser. Il est habillé comme un prêtre, comme un gars de rien. Il est là en train de danser. On dit qu'il saute, il danse, il pousse des cris de joie, il s'amuse avec le peuple devant ses servantes. Donc finalement, c'est un petit peu comme si Charles Michel débarquait à la Madeleine ici et prenait une trompette et commençait. Voilà, c'est... David est là, il est dans la joie. Il manifeste sa joie devant l'Éternel, il est content. C'est un beau jour, c'est un grand jour. Et finalement, il ne fait que faire ce que Dieu nous demande. Hein. Il pousse des cris de joie, il danse, il chante. C'est fantastique, n'est-ce pas? Et alors, il rentre chez lui et il fait la rencontre avec sa femme, Michal. Et alors, Michal lui dit, « Attends, gars, t'as pas l'impression que t'exagères un petit peu ?» Hein, t'as été là dehors, te pavaner comme un homme de rien, t'as dansé comme n'importe quoi, mais tu te prends pour qui? Tu te rends pas compte que t'es le roi d'Israël? Tu te rends pas compte que tu devrais avoir un petit peu de tenue quand même? Hein, t'es un homme respectable, faut te faire respecter, mon gars. Avant ça, on nous dit que Michal était chez elle, à la maison. Je sais pas ce qu'elle faisait chez elle, mais enfin bon. Elle aurait dû être avec le peuple, mais elle est restée chez elle. Bon, soit. Et alors, elle faisait peut-être la vaisselle, hein, bon, on n'en sait rien. Mais... Et alors elle regardait par la fenêtre et le texte nous dit qu'elle conçut du mépris pour lui dans son cœur. Elle conçut du mépris pour lui dans son cœur. Et donc elle était là en train de l'observer et puis quand il est arrivé, elle a commencé à lui faire de fameux reproches. Fameux reproches, elle lui a parlé très sévèrement et David va lui répondre, « Mais écoute, tu sais, moi j'ai dansé comme ça, mais c'était pour la gloire de Dieu. J'ai dansé comme ça parce que Dieu m'a élevé en tant que roi et je voulais me montrer vulnérable devant Dieu. C'est une manière de m'humilier devant Dieu. C'est une manière de montrer à Dieu que, quelque part, même si tu m'as donné un plan ou une position élevée, moi je ne suis rien devant toi. » En fait, si vous regardez bien, David se comporte comme le bouffon du roi. Il va montrer, et c'est ça que Dieu aime, on dit que Dieu résiste aux orgueilleux. C'était pour David sa manière à lui de manifester son humilité devant Dieu et de glorifier Dieu pour l'œuvre qu'il avait faite. Une œuvre puissante, celle de l'Arche de l'Alliance qui revient à la maison de l'Éternel. Mais Michal, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas, elle est fâchée, elle s'énerve, elle boude. Hein, bon, on peut comprendre. Hein. Mais, en attendant, le texte nous dit... Et vous avez lu le texte comme moi. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, vous avez la même Bible. Le texte nous dit, suite à cela. Donc quand on dit suite à cela dans la Bible, ça veut dire qu'il y a un lien de corrélation entre ce qu'on vient de dire et ce qu'on va annoncer. Ce ne sont pas deux choses comme ça, ce n'est pas deux histoires qu'on vous raconte. Non, ce sont deux éléments qui ont un lien entre eux, comme dans une phrase. Je viens d'aller... chez le coiffeur, donc j'ai des cheveux partout. Hein? J'aime bien manger des bonbons parce que ma maman me donnait souvent des bonbons quand j'étais petit. D'accord? C'est un connecteur. Et donc le connecteur nous dit, suite à cela, Michal n'eut jamais d'enfant jusqu'à sa mort. Alors, qu'on se comprenne bien, toutes les stérilités ne sont pas dues à ça. Donc, toutes les femmes stériles ne sont pas des femmes qui ont fait des choses mauvaises. Mais dans ce cas-ci, oui. Michal, c'était la femme gentille, mais qui avait, je le répète depuis plusieurs mois, deux problèmes. Alors, c'est une femme, ça aurait pu être un homme, hein, on s'en fiche. Elle avait d'abord un très mauvais caractère, et ensuite, elle avait un problème dans son intelligence. Un problème dans son intelligence parce qu'elle ne comprenait pas les choses de Dieu. Elle jugeait avec ses petites réflexions de femme. Elle était là, voilà, moi c'est ce que je pense, j'aime pas ça. Elle l'a simplement dit à son mari. Hein, Sonia, imagine qu'Eric débarque ici, hein, qui retire son t-shirt devant tout le monde et qui commence à danser. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire quand il va rentrer à la maison? Ah, il va recevoir un fameux savon, hein? Je l'imagine. Hein, avec des lancelots et tout ça, des banderoles en train de s'amuser. Il ferait peut-être le poirier, parce qu'il sait le faire. La grande roue, il ferait le grand écart. Mais il rentrerait chez lui, Sonia lui dit, eh oh mon vieux, tu veux rester là-bas? Céline, non, ça la dérangerait pas. Elle se formalise pas. Elle aime bien quand son mari... Bon. Mais c'est un texte qui nous montre une femme, et c'est une femme, ça peut être un homme encore une fois, qui n'arrivait pas à comprendre les choses de Dieu. Elle n'arrivait pas à entrer dans la vision de ce qui plaît à Dieu. En fait, ce que le texte nous montre, c'est que quelque part, ce que David était en train de faire, ça a plu à Dieu. C'est pour ça que le texte nous dit qu'il dansait devant l'Éternel. Comprenez ? Quand on dit qu'il dansait devant l'Éternel, ça veut dire qu'il ne faisait pas ça pour sa gloire, il ne faisait pas ça pour s'amuser, il faisait ça pour plaire à Dieu. Son intention de cœur était pure. Il voulait montrer à Dieu son humilité, il voulait glorifier Dieu par des danses. Il était dans cette pureté d'intention. Mais Michal n'avait pas de discernement, et c'est ça le thème de ce matin, le discernement. Elle était chrétienne, elle aimait certaines... Enfin, elle était chrétienne, on se comprend. Hein. Elle connaissait Dieu, pour dire ça comme ça, c'était quand même la femme du roi d'Israël, la fille de Saül, donc quelqu'un qui... Hein, elle connaît, elle n'est pas complètement à côté de la plaque. Mais elle ne comprenait pas les choses de Dieu. Et d'ailleurs, vous voyez bien que, encore une fois, je pose la question, qu'est-ce qu'elle faisait chez elle? Tout le monde était en train de célébrer Dieu. Non, elle, c'est la femme boudeuse. Elle est fâchée, elle reste chez elle, elle observe et elle méprise. Quelle est l'erreur qu'elle a faite? Premièrement, sa première erreur, c'est qu'elle a méprisé son mari. C'est déjà un problème en soi. Mais deuxièmement, le problème, c'est que son mari, c'est pas n'importe qui. Son mari, c'est le roi d'Israël. Elle le méprise et en plus... Elle va l'attaquer alors qu'il est en train d'accomplir quelque chose qui plaît à Dieu. Le thème que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est une perle rare dans l'assemblée des saints, le discernement. S'il y a bien une chose dont on manque dans l'Église, c'est du discernement. Nous avons toujours l'impression que nos pensées correspondent à ce que Dieu veut. Or, il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Nous avons toujours l'impression que finalement, même la parole de Dieu ou les choses du royaume, ben voilà, c'est clair, c'est logique, il suffit de... C'est ce que Michal pensait aussi. Elle a simplement donné son opinion, elle n'a rien fait de grave, hein, les amis. Elle n'aimait pas ce qu'il faisait, elle lui a dit, puis c'est tout. Mais le problème, c'est qu'effectivement, là... Dans ce cas-ci, ça lui a valu ce qu'on sait. Le texte ne dit pas qu'elle n'a pas eu d'enfant pendant qu'elle était mariée avec David. Le texte dit pendant toute sa vie, et elle s'est remariée après. Pourquoi ? Quand on n'a pas de discernement et qu'on parle sans réfléchir. C'est très souvent le problème que nous avons en tant que chrétiens. Nous jugeons les choses... Nous sommes par exemple dans l'église, nous jugeons les choses, nous jugeons les gens sans l'Esprit de Dieu. Nous appréhendons les situations en nous appuyant sur l'apparence, sur les opinions, sur les sentiments, sur les trucs qu'on aime bien. Mais on ne comprend pas que les choses de Dieu ne peuvent se comprendre qu'avec l'intelligence de l'Esprit. C'est la même chose qu'on voit dans l'autre exemple avec le fameux... Pierre, dont on a déjà parlé la dernière fois. Pierre était aussi de ce genre de gars-là. Pierre voulait tout simplement avoir des bonnes intentions envers Jésus, on l'avait déjà dit. Il voulait simplement empêcher la souffrance à Jésus. Il voulait simplement que Jésus soit un Seigneur glorieux, qu'on aime bien, qu'on acclame. Il ne voulait pas que Jésus passe par la mort. Mais quand Jésus lui répond, Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan !» Tes pensées me sont en horreur, parce que ce sont des pensées toutes humaines. Ce ne sont pas les pensées de Dieu, ce ne sont pas des pensées spirituelles.
En d'autres termes, on peut très bien être là, on peut très bien être dans l'église, on peut très bien lire la parole de Dieu, mais ne pas être un homme ou une femme spirituel. Être spirituel, c'est être capable d'accepter les choses de l'esprit, quand bien même elles nous dépassent, quand bien même elles ne sont pas selon nos petits dessins, nos petits plans, nos petites choses.
Et donc, Michal finalement reçoit sa condamnation, mais dans la Bible, on a d'autres exemples de gens qui ont agi sans discernement. Rappelez-vous, par exemple, le choix du 13e apôtre. 13e apôtre, les apôtres sont là, ils disent « Ah, Judas est mort, il faut le remplacer. » Vous savez ce qu'on va faire ? On va choisir deux personnes, on va mettre leur nom dans un petit pot, et puis on va tirer le nom, et celui-là qu'on aura tiré le nom, ce sera celui que Dieu a choisi. Pas de discernement. Jésus a passé toute une nuit à prier pour choisir ses disciples, toute une nuit. Une nuit entière à prier. Et eux, ils sont là, ils se disent « Oui, mais c'est pas compliqué, on va juste tirer le nom, et puis on tire le nom, et il y aura un gars qui va venir, et puis finalement... » Et alors vous voyez que le gars qu'on a choisi, Matthias, on n'entend plus jamais parler dans la Bible. Il n'a plus jamais rien fait, le gars. Il a été choisi comme 13e apôtre, et il n'a fait aucun impact dans l'Église. Et après, on a la preuve, puisque Dieu va choisir l'apôtre qu'il voulait, l'apôtre Paul. Donc, quelque part, Dieu va montrer que le choix qu'ils ont fait, c'est un choix sans discernement. Le discernement est très important. Et encore une fois, le discernement, c'est la capacité de séparer les choses. Discerner, c'est séparer les choses. Si vous regardez dans le texte de la création... les premiers versets de la création, la première chose que Dieu a fait, c'est de séparer. Il a séparé la lumière et les ténèbres, il a séparé les eaux d'au-dessus, les eaux d'en dessous, il a séparé les eaux et la terre. Donc, le travail de Dieu, dès la création, ça a été de séparer. Et il veut une église capable de séparer, c'est-à-dire capable de discerner les choses. Capable de prendre des décisions, pas seulement sur les apparences, pas seulement sur les sentiments, pas seulement sur les habitudes, mais être une église ou être des enfants de Dieu, capable de saisir les choses de l'Esprit de Dieu. Vous savez, il y a un proverbe qui dit, il y a des chrétiens, quand ils vont arriver au ciel, ils vont passer dans un couloir à côté de Dieu, ils ne vont pas le reconnaître. Donc, t'es là, t'arrives au ciel, t'as été accepté, youpi, youpi. Et puis après, tu passes à côté de Dieu, tu dis, ah, c'est toi. Pourquoi ? Parce que nous sommes tellement peu avancés dans la connaissance de Dieu que nous vivons en croyant connaître Dieu. Vous voyez, c'était ça, hein ? Parfois, c'est ça le danger des apparences. Et le problème, il est là, c'est que quand l'Église n'a pas de discernement, elle vit sur les apparences, sur les impressions. Mais alors, elle passe à côté de ce que Dieu veut. Alors, je ne suis pas en train de dire que si quelqu'un rentre ici en se mettant tout nu et en dansant, il faudra dire c'est ça que Dieu veut. Non. Je suis en train de dire, le discernement, très souvent, ça va nous amener à être capable d'entrer dans la profondeur des choses pour reconnaître ce que Dieu a voulu ou ce que Dieu n'a pas voulu. Quand bien même les apparences ne correspondent pas à ce que nous pensons. Rappelez-vous, quand Samuel est parti choisir le roi d'Israël, qu'est-ce que Dieu lui dit ? L'homme regarde aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Très souvent, nous avons facile à tout juger. Hein, on croit que quelqu'un qui est en costume cravate, qui parle fort, est orgueilleux. Mais qu'est-ce que tu en sais ? Et puis on croit que quelqu'un qui est là en cinglé, tout gentil, est forcément humble. Qu'est-ce que tu en sais ? Vous voyez, c'est ça le problème. C'est quand on est chrétien, mais qu'on n'est pas un homme spirituel. C'était le problème des Corinthiens. Vous aurez remarqué que les Corinthiens, c'est après la descente du Saint-Esprit. Hein? On est d'accord ou pas ? Ah oui, parce que sinon vous auriez dit, oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas encore le Saint-Esprit. C'est après la descente du Saint-Esprit. Hein? Mais l'apôtre Paul est obligé de le rappeler. Attendez les gars, vous n'êtes pas...
vous n'êtes pas les philosophes de ce monde, hein. Nous ne sommes pas les mathématiciens en train de faire des petits calculs humains pour essayer que les choses collent comme on a envie. Nous sommes des enfants de Dieu et nous devons vivre en homme et en femme spirituels. Parce que seul l'homme spirituel est capable d'accepter les choses de l'esprit. Nous avons parfois tellement de facilité à juger, mais sans discernement. Hein, j'entends souvent des prédicateurs qui se permettent en chair de se moquer d'autres serviteurs de Dieu comme ça. Oh, de toute façon, lui, t'as vu ce qu'il fait, c'est pas dans la Bible. Eh, attention, attention, tu ne sais pas qui est qui. Tu ne sais pas quelle est l'intention du cœur de la personne. Tu ne sais pas ce que Dieu a demandé à l'autre. Il faut avoir du discernement. Parfois, on se dit, de toute façon, mes critères sont des bons critères, ça a toujours été comme ça. Alors, Hébreux 5, versets 11 à 14 nous dit, « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. » Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Donc, une des caractéristiques du chrétien mature, du chrétien fait, c'est le discernement. Premièrement, le discernement de ce qui est bien et de ce qui est mal. Premièrement, encore là, on n'est pas dans chercher la volonté de Dieu. D'abord, être capable de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, vous allez me dire, bah oui, on sait bien... Tuer, c'est pas bien, mentir, c'est pas bien, hein, bon, c'est vrai. Mais à côté de ça, il y a aussi discerner le bien et le mal dans notre contexte d'aujourd'hui. Vous savez tous qu'au temps de la Bible, il n'y avait pas de téléphone, par exemple. Il n'y avait pas de téléphone. Et vous me regardez comme si vous n'étiez pas sûr. Il y avait des téléphones ou pas? Bon, merci. Il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de télévision. Il n'y avait pas de magazine. En d'autres termes, même en lisant la parole de Dieu, nous avons besoin de discerner aujourd'hui les choses qui sont apparues aujourd'hui, discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ça va vouloir dire discerner nos lectures. Qu'est-ce que tu lis? Quel roman est-ce que tu lis? Quel magazine est-ce que tu lis? Quel document est-ce que tu lis? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Discerner nos lectures, discerner les musiques que nous écoutons, discerner nos distractions, les médias, la radio, la télévision, les disques, toutes des choses qui sont dans le monde, mais dans lesquelles nous avons à exercer un discernement, de dire ça c'est approuvé par Dieu, ça ne l'est pas. Justement, le discernement c'est le fait que nous ne pouvons pas vivre comme si tout était égal. Vous comprenez, tout n'est pas égal, tout ne doit pas être mélangé dans notre vie. Ézéchiel 44, verset 23 nous dit, le prêtre devra enseigner au peuple à faire la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. Et David dit dans le psaume 16, en parlant du nom des idoles, leur nom ne passera même pas sur mes lèvres. Donc, il y a un discernement à avoir sur les choses que nous voyons à la télévision. Il y a un discernement entre le bien et le mal aujourd'hui à exécuter. Premièrement, discerner le bien et le mal. Deuxièmement, être capable de discerner les choses les meilleures. À Philippiens 1, verset 9 nous dit... Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. En d'autres termes, avoir de l'amour, ça ne suffit pas. Il faut avoir un amour qui soit rempli de connaissance et d'intelligence. Pour le discernement des choses les meilleures,
afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ.
En d'autres termes, en tant que chrétien, on ne peut pas se contenter de faire le bien. Non, c'est bien ce que je fais. Oui, c'est bien, mais est-ce que c'est le meilleur? Est-ce que c'est le mieux ce que tu fais? Il ne faut pas tout le temps se contenter de se dire, de toute façon, en faisant ça, je ne pêche pas. Hein, parfois, on est comme ça. Ben quoi, c'est pas un péché, hein, j'ai rien dit, j'ai rien fait, voilà. Non. Les choses les meilleures, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Encore une fois, il nous dit, soyez parfaits comme mon Père est parfait. Donc nous avons, dans notre vie de tous les jours, par exemple, dans nos relations, il y a certaines relations que nous avons qui ne sont pas forcément mauvaises, mais est-ce qu'elles sont meilleures? Est-ce qu'elles sont du niveau du royaume de Dieu? Rappelez-vous le message qu'on avait donné il y a quelques mois, il y a un mois, sur les standards du royaume, Matthieu chapitre 5. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Donc Jésus appelle son peuple à une justice supérieure, vous comprenez? Il nous appelle à un discernement des choses les meilleures. Qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi? Qu'est-ce qui est vraiment agréé par Dieu? Qu'est-ce qui va vraiment m'apporter de l'avancement? Qu'est-ce qui est bon pour ma famille? Qu'est-ce qui est bon pour l'Église? Les choses les meilleures. Et ensuite, il nous appelle à discerner, troisièmement, la volonté de Dieu. Romains 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est une bonne manière de réfléchir, n'est-ce pas? Cette chose-là, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Est-ce que c'est agréable à Dieu? Est-ce que Dieu approuve ça? Et est-ce que c'est parfait? C'est-à-dire, est-ce que ça correspond aux choses du royaume de Dieu? Encore une fois, ce que Jésus essaie de leur dire dans Matthieu 5, c'est, oui, d'accord, ne pas se venger, c'est trop facile. Oui, ne vous vengez point, oui, ça c'est cool. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Vous voyez, il y a le minimum minimorum. Moi, je ne me venge pas. Hein, bon, le niveau, le moins 1, c'est œil pour œil, dent pour dent. Le niveau 0, c'est de dire, moi, je ne me venge pas. Le niveau 1, c'est-à-dire le niveau du royaume, c'est de dire, moi, j'aime mon ennemi d'ailleurs. Le niveau moins 1, c'est de dire, quand quelqu'un nous demande un vêtement, comme il dit dans Matthieu chapitre 5, de dire, de toute façon, chacun sa vie, n'avait qu'à faire des études, n'avait qu'à trouver un travail, et puis voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai trouvé un travail, j'ai travaillé, j'ai gagné mon argent, et bien voilà, il n'a qu'à faire le même, voilà. Ça c'est le niveau moins 1. Vous êtes comme ça, hein, vous. Non, c'est une blague. Bon, niveau 0, c'est de dire, bah oui, allez, je vais lui donner ma chemise qui ne me sert plus depuis 15 ans, je pense qu'elle est trop petite pour lui, mais c'est pas grave, je vais lui donner quand même. Et le niveau 1, le niveau du royaume, c'est de dire, je vais lui donner ma meilleure chemise, la plus belle, celle que je préfère, je vais lui donner, voilà, tiens, prends-la. Jésus dit, si jamais quelqu'un te demande de faire un mille avec lui, fais-en deux. Donc c'est ça la mentalité du royaume de Dieu. On ne peut pas se contenter des petits machins, des petits trucs, des petits restes. Nous sommes le peuple du royaume de Dieu, sacrificateur de notre état. Nous devons viser les choses les meilleures. Et donc, Jésus nous appelle à la perfection dans l'amour. Et pour ça, ça demande effectivement du discernement. Quand on n'a pas de discernement, on aime n'importe comment. Hein, on essaye d'aimer et puis finalement, on n'aide personne, on ne fait rien de bon parce qu'on aide sans discernement. Discerner la volonté de Dieu. Éphésiens 5, 10 à 11 nous dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. » Mais plutôt condamnez-les. Ça veut dire qu'on ne peut pas être dans le monde et ne pas exercer un discernement. Il y a des choses mauvaises, il y a des choses bonnes. Et c'est à nous de faire le même travail que Dieu a fait à la création, de séparer dans notre vie les choses qui sont bonnes, les choses qui sont mauvaises. De séparer dans notre jugement les choses qui sont bonnes, les choses qui sont mauvaises. Encore une fois, il ne s'agit pas d'utiliser l'intelligence mondaine. On est en train de parler de l'intelligence de l'Esprit de Dieu, qui est folie pour les hommes même, qui ne correspond pas toujours à nos traditions, à nos habitudes. Mais qui est-ce que Dieu veut? La plupart du temps, quand Dieu a demandé des choses aux gens, c'était toujours des trucs bizarres, vous le savez. Hein, vous connaissez Jérémie, Ézéchiel, ils se retrouvent à manger de la boue. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Enfin, de la boue, il faut qu'on se parle clairement, des excréments. Parce que quand on dit de la boue, on pense que c'est de la terre. Des excréments, d'accord? Il l'a mangé, hein, il l'a fait. Puis l'autre, Dieu lui dit, écoute, tu vas dormir pendant tel nombre de jours sur ton côté droit. Ah, c'est ça que Dieu demande parfois aux gens. Hein. Et donc, discerner les choses qui sont agréables au Seigneur. Ensuite, quatrièmement, discerner les esprits. Bien-aimé, 1 Jean 4, verset 1, « Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prophètes sont venus dans le monde. » Donc nous avons aussi à discerner les esprits qui parlent. Vous savez que la Bible dit que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais les principautés, en d'autres termes, il y a les choses que nous voyons, et puis il y a les esprits qui sont derrière les choses que nous voyons. Nous devons aussi être capables de discerner les esprits. Vous savez que quand le diable est venu tenter Jésus, il lui a cité quoi? Des versets, hein? Des versets. Donc quelque part, même quelqu'un qui vient ici et qui dit des versets pourrait très bien être animé d'un mauvais esprit. Pas parce que quelqu'un te dit, ah, tu sais, la Bible dit que. Oui, mais quelle est son intention? Quel est l'objectif? C'est ce que Dieu veut. Donc vous voyez, nous avons besoin d'élever le niveau de notre discernement. Encore une fois, la question, ce n'est pas de savoir est-ce qu'il y a des démons ou est-ce qu'il n'y en a pas. Il y en a. La question, c'est être capable de les discerner. La question, ce n'est pas est-ce qu'il y a des prophéties ou est-ce qu'il n'y en a pas. Il y en a. La question, c'est d'être capable de faire la différence entre les faux prophètes et les vrais prophètes. Je voudrais dire que le discernement, ce n'est pas avoir un esprit de méfiance. Ce n'est pas avoir un esprit de soupçon. Ce n'est pas avoir un esprit de suspicion. Le discernement spirituel, c'est quand nous sommes capables, à la lumière de l'Esprit de Dieu qui vient en nous, d'être capables de reconnaître ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas. Et ça, ça demande de l'exercice, ça demande du travail. On ne se lève pas un beau matin avec du discernement. C'est du travail devant la face de Dieu. Nous devons aussi discerner les temps. Discerner les temps. Il y a un temps pour tout, dit l'Ecclésiaste, n'est-ce pas? Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour être sérieux. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour jeûner. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour veiller. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Éphésiens 5, versets 16 à 17 nous dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Pour terminer, comment faisons-nous pour grandir en discernement? Premièrement, nous devons savoir que ce qui brouille notre discernement, c'est notre chair. C'est pour ça que l'apôtre dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses désirs. » En d'autres termes, plus nous nous approchons de Dieu, plus nous arrivons à crucifier ce qui est en nous de charnel. C'est ça en fait le problème en nous, c'est cette chair qui vient s'imposer dans les choses spirituelles et qui voudrait dicter la musique, vous comprenez ? Michal, elle n'était pas méchante, c'est juste qu'elle aimait son mari et qu'elle voulait, hein, elle voulait avoir le prestige de son mari, quoi. Elle voulait un mari respecté, parce que finalement, si son mari est respecté, elle aussi, elle est respectée. Le problème, c'était simplement un problème d'orgueil. Hein, elle voulait un mari respectable. Donc le problème, c'était justement cet orgueil-là qu'elle voulait mettre en avant plutôt que la chose que Dieu approuvait. Le problème de l'apôtre Pierre, dans le texte que nous avons lu, c'est qu'il voulait épargner à Jésus la mort parce qu'il aimait bien Jésus. C'était bien gentil, c'était de l'amour presque, on aurait pu dire. C'était de l'amour, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Il n'avait pas le discernement pour se rendre compte que Jésus devait passer par la mort. C'était son chemin. Et je l'ai dit la dernière fois, si Jésus avait été faible d'esprit, il aurait pu se laisser entraîner par Pierre et changer le destin de l'humanité. Donc c'est grave. Quand on n'a pas de discernement, on a des bonnes intentions, mais on est à côté de la plaque. Hein, on dit des bonnes choses, mais ce n'est pas le royaume de Dieu. Et donc, premièrement, nous devons crucifier la chair, ses désirs. Nous devons examiner nos opinions aussi. Nous avons tous des opinions, c'est normal, hein, il faut en avoir. Ça fait partie des êtres humains d'avoir des opinions, n'est-ce pas? Vous avez des opinions, vous? Ouais. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, hein, on fait ce qu'on veut. Il faut examiner ses opinions. Et ensuite, nous devons faire attention à nos affections charnelles. Deutéronome, verset 13, nous dit « Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils ou ta fille, ou la femme que tu sers contre ton cœur, ou ton ami intime, essaie de te séduire en secret en te disant « Allons rendre un culte à d'autres dieux que ni toi ni tes ancêtres n'avaient connus. » Donc, hein, quand on a un attachement charnel aux gens, on perd du discernement. Hein, c'est pour ça que dans le monde même, un juge ne va pas juger un membre de sa famille, parce qu'il sait bien qu'il risque d'être... C'est la même chose avec nous. Et c'est ça que le texte nous met en garde. Faites attention. Soyez capable de discerner dans votre cœur ce qui vous entraîne à parler, à agir. Soyez capable de comprendre qu'est-ce que vous affectionnez, pourquoi vous pensez comme ça. Les affections charnelles. Vous connaissez ce texte où la mère de Pierre et Jean vient devant Jésus et leur dit « Maître, il n'y aurait pas moyen de trouver une place à ta droite et à ta gauche pour mes enfants ?» Et je lui dis « Mais enfin, tu comprends pas. » Vous voyez, elle avait une bonne intention, mais elle n'était pas dans la pensée du royaume. Parce qu'il y avait cette « Ah, je voudrais bien que mes enfants soient élevés. » C'est un petit peu de l'orgueil, mais c'est plus que ça. C'est « Ah, mes enfants sur le trône de Jésus. Hein, » Oui, mais d'accord. Mais alors Jésus leur répond « Vous savez, ici, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas comme dans le monde. Hein. Ici, celui qui veut régner, c'est celui qui peut servir. Ici, c'est le serviteur qui règne. » Encore une fois, pas de discernement. Elle voulait simplement une position pour ses enfants. Comme ça, elle n'avait pas réfléchi au prix à payer. Nous devons absolument grandir en discernement. C'est absolument essentiel pour nous, pour chacun d'entre nous, pour l'Église. La semaine prochaine, réunion d'assemblée. Youhou, super! Qu'est-ce qu'on va dire à la réunion d'assemblée? Est-ce que cette semaine-ci, on va prier pour dire « Seigneur, je veux entendre ce que tu dis à Jumet » et quand on sera à la réunion, de dire les choses que Dieu nous dit? Ou est-ce qu'on va être là? Tu sais, moi je pense que, je crois que, j'ai envie que. Est-ce que les pensées que nous allons exprimer sont donc des pensées du royaume ou des pensées toutes humaines? Est-ce que les pensées que nous allons exprimer seront des pensées que l'on aura examinées devant l'Esprit de Dieu ou est-ce que nous allons tourner dans des petits bazars, des petits machins que seul l'humain peut comprendre? Vous savez que la plupart des églises du monde qui sont détruites dans des réunions. Toujours dans des réunions, ça se passe. Pourquoi? Parce que les gens viennent avec leur affection charnelle. On vient là comme des hommes charnels et on discute charnellement. Au lieu de dire, Seigneur, on est là, on veut simplement écouter ce que tu nous dis et faire ce que tu nous dis. Alors, que le Seigneur nous aide à grandir en discernement. L'apôtre Paul nous dit, ne jugez pas avant le temps. Discerner, ça veut dire que nous devons être capables, lorsque nous avons quelque chose à dire, lorsque nous faisons quelque chose, d'examiner, est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que c'est correct devant Dieu? Ne soyons pas trop rapides à juger les choses qui nous semblent bizarres, mais examinons les choses à la lumière de ce que Dieu veut de nous, et nous serons bénis. Pourquoi? Parce que si nous discernons, nous irons dans les chemins que Dieu a prévus pour nous. Si nous ne discernons pas, nous irons à gauche, à droite, en haut, en bas, mais jamais là où Dieu nous attend. C'est ça la pire des choses pour un chrétien. C'est d'être chrétien, mais de ne pas être un homme spirituel. Toute ta vie, tu as pris des décisions, mais jamais en discernant la volonté du Seigneur. C'est ça le risque. Mais Dieu nous aidera si nous acceptons de nous soumettre à sa parole de vérité. Amen. Alléluia.